les sentiers du bonheur.
Une émission qui vous apporte un message d'espérance, de paix, de joie et de confiance.
Chers amis auditeurs, bonjour. Eric et Sabrina pour une nouvelle randonnée sur les sentiers du bonheur. Eric, dimanche dernier, 7 janvier, la tradition a été respectée dans de nombreux foyers avec le partage de la galette des rois. En quête de la fève, chacun a dégusté sa part avec l'espoir d'être l'heureux élu couronné le temps d'une journée. Alors, Eric, la semaine dernière, toi, est-ce que tu as eu le privilège d'être le roi ?
Eh non, cette année, je n'ai pas eu la chance de tomber sur la bonne part. Maintenant, cette tradition de l'épiphanie renvoie tout de même à un épisode de la Bible, dans Matthieu chapitre 2. On fait bien de s'en rappeler parce qu'avec les traditions, on a vite fait d'oublier l'origine de nos rituels. Pourtant, ce passage de l'Évangile a de nombreux enseignements qui ont encore leur pertinence aujourd'hui.
Justement, regardons ensemble la section des Écritures qui en parle. Est-ce qu'on peut en rappeler les grandes lignes ?
Matthieu, chapitre 2, à partir du verset 1er, rapporte comment des mages venus d'Orient ont été les premiers à reconnaître en Jésus, encore bébé, un roi digne d'adoration. Suite à un long périple depuis leur pays après plusieurs rebondissements, ils ont pu trouver à Bethléem l'enfant Jésus et lui ont effectivement rendu les hommages dignes de son rang.
Le texte biblique parle de mages, mais qu'est-ce qu'un mage, en fait ?
Dans l'Antiquité, les mages étaient des hommes reconnus comme sages, des astrologues et érudits du monde oriental, notamment dans la région de la Mésopotamie. Généralement, les mages siégeaient dans les tribunaux et servaient de conseillers spirituels aux rois de leur territoire. Le profil de ces hommes interpelle dans cette histoire. Ils ne sont pas de culture juive. Ils viennent de très loin, d'une région où habituellement les Israélites voyaient surtout des ennemis et des païens.
Ces caractéristiques sont donc significatives.
Elles donnent l'un des enseignements du récit. La personne de Jésus transcende les barrières nationales ou ethniques. Il n'est pas seulement le roi des Juifs ou d'une communauté en particulier. Personne ne peut se l'approprier ou le privatiser. Même ceux et celles qu'on regarde parfois comme éloignés de lui peuvent devancer dans leur expérience de foi les dévots ou les orthodoxes de la religion.
C'est Jésus lui-même qui a dit que les prostituées devanceront dans le royaume de Dieu des personnes apparemment très spirituelles.
Oui, c'est une façon de dire qu'il n'y a pas de discrimination possible dans ce qu'il propose. Dans Matthieu chapitre 2, ce sont bien des personnes venues de la région de Babylone qui sont les premières à reconnaître le Christ. En fait, de quelque origine que puisse être une personne, si elle reconnaît en Jésus le Seigneur et le Sauveur, elle trouvera sa place dans le règne de Dieu. C'est aussi en ce sens que la Bible présente Jésus comme le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et c'est ce que ces mages ont reconnu en leur temps et que nous pouvons reconnaître aussi, même 2000 ans après eux.
Disons quelques mots sur la démarche et les motivations de ces mages.
Les premières lignes du récit de Matthieu, chapitre 2, nous renseignent sur la motivation des mages. Ils disent clairement être venus adorer le roi qui vient de naître. On les voit ensuite se donner les moyens d'atteindre cet objectif. Ils ont suivi cette étoile providentielle. Ils ont aussi sondé les Écritures pour connaître les données de la prophétie concernant le Messie. Leur démarche est humble, structurée et réfléchie. On remarque leur constance et leur persévérance jusqu'à atteindre le but d'adoration.
Leur attitude tranche avec celle d'Hérode, le roi des Juifs de l'époque.
Hérode s'est rapidement senti dérangé par Jésus. Même quand il projetait lui aussi de l'adorer, on lit qu'il a délégué à d'autres le soin de trouver le chemin pour y parvenir.
C'est le verset 8 de Matthieu chapitre 2 qui présente cette scène, quand Hérode dit aux mages « Allez prendre des informations précises sur l'enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir. » afin que moi aussi je vienne me prosterner devant lui.
Exactement. Et finalement, il ne s'est jamais présenté devant Jésus, mais a surtout cherché à le tuer. Tout ceci nous fait dire que dans la Bible, l'adoration est un sujet suffisamment important pour que chacun s'en occupe soi-même. sans remettre à d'autres le soin de le faire pour nous. L'expérience réclame d'agir avec réflexion au-delà des traditions familiales ou nationales. Les Écritures sont, dans ce domaine, une aide cruciale et même déterminante. Elles ont guidé les mages à Bethléem et nous guident encore dans nos expériences avec Dieu.
Et la providence divine, alors ?
Elle n'est jamais bien loin dans tous les cas. C'est la main mystérieuse de Dieu qui guide à sa manière nos pas dans des voies où nous pouvons le rencontrer d'une manière ou d'une autre.
Les mages ont adoré Jésus avec des présents de grande valeur. Ils offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Comment comprendre ce choix ?
Dans l'Antiquité, ces présents étaient offerts au roi, bien sûr, mais aussi aux divinités durant les services de culte. Alors c'était l'intention des mages de donner à Jésus le meilleur de ce qu'il pouvait offrir en reconnaissant en lui un caractère royal et divin. Aujourd'hui, il n'est plus question pour nous d'offrir l'or, l'encens ou la myrrhe, mais l'exemple des mages nous parle pour inspirer nos dons, en gardant à l'esprit que le plus précieux d'entre eux restera toujours celui d'un cœur sensible à la voix divine, puisque l'adoration, dans la Bible, c'est une forme de ressourcement de notre vitalité en celui qui est la source de la vie.
Le type de royauté que Jésus a vécu sur terre fait également partie des leçons à tirer de cet épisode des rois mages.
Eh oui, la royauté du Christ présentée dans la Bible est bien singulière. Il est le roi serviteur, celui qui est accessible de tous, pas venu pour être servi, mais pour servir jusqu'à donner sa propre vie. Il a renversé bon nombre de conceptions erronées sur Dieu. Déjà au 1er siècle, mais malheureusement aujourd'hui encore, il est vu comme un être sévère, à l'affût des fautes humaines pour les condamner. Ce que Jésus a démontré, c'est avant tout le caractère aimant de Dieu, sa générosité, sa compassion et sa volonté d'apporter une aide salvatrice à l'humanité en perdition. Il a montré son attachement à la justice et sa capacité à l'exercer avec cet amour inconditionnel. Il a incarné le divin de manière décisive et a ainsi ouvert un chemin pour que chacun puisse se rapprocher du Dieu de la vie et goûter à la chaleur de sa présence. C'est un peu ça la royauté selon Jésus.
Amis auditeurs, sur les sentiers du bonheur, l'expérience d'adoration du roi serviteur Jésus apparaît comme incontournable. Comme les mages et sans déléguer à d'autres cette démarche, chacun peut librement s'approcher du roi, adorer et se ressourcer en lui. À bientôt.
C'était votre émission hebdomadaire, Les Sentiers du Bonheur. Un programme présenté par l'Église Adventiste du 7e jour. Aimeriez-vous lire le texte de la causerie d'aujourd'hui ? Demandez-le. Il vous sera envoyé gracieusement.
Nous tenons également à votre disposition notre cours de Bible gratuit par correspondance. Nous le recommandons vivement à tous nos auditeurs. Écrivez-nous aujourd'hui même.
Voici notre adresse.
Boîte postale 50 97 282, Le Lamentin, CEDEX 2.
Nous nous réjouissons à la pensée de vous retrouver à l'écoute la semaine prochaine à la même heure. À bientôt.